Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape a tenu mercredi son audience générale hebdomadaire en poursuivant sa catéchèse sur la figure de Saint Joseph. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église de cette édition de notre programme. Pour l'actualité de l'Église en Afrique, nous parlerons des célébrations qui ont marqué le 57e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anouarite en République démocratique du Congo et le 40e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho au Rwanda. Le 1er décembre est aussi la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Dans ce journal, le père Ismaël Matamboura, directeur des ADJAN, les réseaux jésuites africains de lutte contre le VIH-Sida, nous parlera de la célébration par sa structure. L'actualité sociale et politique africaine nous conduira notamment en Éthiopie, au Nigeria, au Sénégal. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Joseph, l'époux de Marie, était un homme juste qui a su accueillir, non sans peine, la volonté de Dieu. Même dans nos relations affectives, il nous enseigne à passer d'un amour romantique à un amour mûr et responsable. En cela, il est un exemple pour les fiancés et pour les époux. C'est l'enseignement du pape au cours de sa catéchèse hebdomadaire de mercredi tenue dans la salle Paul VI. Françoise Niamien nous en parle.
Joseph, homme juste. Le pape a poursuivi mercredi sa catéchèse sur la figure de Saint Joseph. Le Saint-Père a particulièrement approfondi l'être de Joseph comme homme juste et comme fiancé de Marie. Pour François, c'est à juste titre que l'évangéliste Matthieu définit Joseph comme juste, car bien qu'il était soumis à la loi, il n'a pas voulu exposer Marie, sa fiancée, à la lapidation et à l'humiliation, mais a décidé de la répudier en secret. Dans un rêve, la voix de Dieu intervient dans son discernement et lui révèle un sens plus élevé de sa justice et il prie chez lui Marie. Aussi, c'est devant certaines circonstances de la vie qui apparaissent dramatiques que se cache la providence de Dieu, qui, avec le temps, prend forme et illumine même le sens de la douleur qui nous frappe, a déclaré le Saint-Père. Les deux fiancés, Joseph et Marie, avaient sans doute leur rêve, mais Dieu apparaît dans leur histoire et non sans peine, ils ouvrent leur cœur à cette réalité nouvelle. Notre vie, surtout celle affective et amoureuse, n'est pas comme nous l'imaginons. Le vrai amour, a dit le pape, n'est pas celui des débuts, qui est seulement romantique, mais celui qui est mûr et responsabilité. Aussi, François a invité les nouveaux époux présents à l'audience à passer du charme à l'amour mûr et responsable qui constitue à choisir en toute liberté. C'est le vrai amour qui commence quand celui romantique semble finir. C'est un choix exigeant qui n'emprisonne pas la vie, mais peut fructifier l'amour en le rendant résistant face au temps et aux épreuves, a par ailleurs dit le pape.
Signalons qu'avant son audience générale hebdomadaire, le Saint-Père avait accueilli en audience le cardinal Maurice Pia, évêque de Port-Louis en île Maurice. Comme annoncé, du 2 au 6 décembre, le pape effectue son 35e voyage apostolique en Chypre et en Grèce. À la veille de ces voyages, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, estime que le Saint-Père s'y rendra dans ces deux pays en pèlerin d'unité et de fraternité. Le pape portera la lumière et l'espérance du Christ, ainsi que l'exhortation à transformer la mer Méditerranée. Au lieu qu'elle soit un espace qui divise, qu'elle devienne plutôt un espace de rencontre, a encore déclaré le cardinal Parolin au cours d'une interview accordée aux médias du Vatican. Le pape François a nommé mardi 30 novembre un nouvel observateur permanent du Saint-Siège à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont les sièges se situent à Paris. Il s'agit de Mgr Éric Sovigidi, de nationalité béninoise, qui était jusqu'à présent en service à la secrétaire d'État du Saint-Siège, à la section pour les relations avec les États. Après sa nomination, Mgr Éric Sovigidi a bien voulu nous partager ses impressions. On l'écoute.
J'avoue que j'ai reçu la nouvelle avec surprise. Je ne m'y attendais pas. Je l'ai accueillie comme un geste de confiance de la part du Saint-Père et de mes supérieurs. C'est pas d'abord ma personne, mais un service d'église et je remercie le Seigneur qui m'appelle à ce service. Je remercie mes supérieurs qui me font confiance pour me confier ce travail. Au-delà des appréhensions qu'on peut avoir au départ pour une responsabilité de ce genre, j'ai demandé la prière de beaucoup de personnes et peu à peu, je vais me mettre à apprendre en communiquant avec ceux qui ont déjà de l'expérience dans le domaine plus que moi. Une chose, c'est d'avoir de l'expérience diplomatique. Une chose, c'est de travailler de façon concrète dans une structure, une organisation internationale. Il y a Monseigneur Follo qui y est. Depuis des années, j'aurai certainement, par la grâce de Dieu, l'occasion d'apprendre de lui et de beaucoup d'autres institutions du Saint-Siège qui collaborent de façon étroite avec l'UNESCO.
Comment envisagez-vous cette nouvelle mission?
Je l'envisage comme tout observateur dans la logique d'être une présence du Saint-Siège. Quand je dis une présence du Saint-Siège, c'est pas la présence de Monseigneur Éric, mais la présence du Saint-Père et de toutes les institutions du Saint-Siège. La mission auprès de l'UNESCO, comme toute autre mission diplomatique, est d'abord une mission d'église. C'est donc dans mon identité de prêtre et dans ma foi que j'aborde cette mission. Je compte sur la prière de tous ceux qui portent à cœur cette mission, cette contribution de l'Église dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science.
Monseigneur Éric Sovigidi, nouvel observateur permanent du Saint-Siège à l'UNESCO, dans des propos recueillis par Françoise Niamien. Poursuivons l'actualité de l'Église en nous rendant en République démocratique du Congo où a eu lieu la célébration du 57e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anne-Warite. Notre correspondant nous en parle.
L'Église de la République démocratique du Congo a célébré le mercredi 1er décembre le 57e anniversaire du martyr de Marie-Clémentine Anne-Warite, religieuse de la Sainte Famille de Kisangani, assassinée à 24 ans dans la nuit du 1er décembre 1964 à Isiro, sur ordre d'un chef rebelle qui voulait d'elle comme sa femme. Le pape Jean-Paul II a béatifié Anne-Warite le 15 août 1985 à Kinshasa. Depuis lors, l'Église de la RDC prie pour la canonisation de sa fille, modèle de pureté. Le comité des laïcs pour la canonisation des bienheureux congolais Marie-Clémentine Anne-Warite et Isidore Bakanja a organisé ce 1er décembre un concert religieux, un concours d'art plastique avant la messe dans la cathédrale. Pendant ce temps, l'archevêque de Kinshasa se trouvait à Isiro. Le cardinal Fridolin Mbongo a effectué un pèlerinage sur les lieux historiques de la bienheureuse. Après Bafouabaka, où Anne-Warite a passé sa formation et sa vie religieuse, les pèlerins sont arrivés à Isiro. Le cardinal Mbongo a présidé l'Eucharistie du 1er décembre. Il a plaidé pour la promotion de la dévotion pour Anne-Warite.
Mais c'est aussi notre responsabilité, nous tous ici, de promouvoir les sites historiques qui font mémoire à notre bienheureuse.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Toujours au sujet de la célébration du martyr de la bienheureuse Anne-Warite, la sœur Rita Mboshu, congolaise et professeure de théologie à l'Université pontificale urbanienne à Rome, nous présente Anne-Warite comme modèle.
Pour aujourd'hui, le 1er décembre, j'éprouve le sentiment de joie et de fierté. Sentiment de joie parce que la bienheureuse Anne-Warite a consciemment fait son choix. Elle a opté pour la vie en plénitude, en sacrifiant sa jeunesse. Et en plus, elle est fruit de l'Église du Congo. Pas seulement de l'Église du Congo, mais de toute l'Afrique. Elle fait honneur à toutes les femmes, les jeunes filles de l'Afrique. La bienheureuse jeune fille congolaise nous interpelle à prendre en main notre avenir et celui de notre peuple.
C'était la sœur Rita Mboshu, congolaise, professeure de théologie à l'Université pontificale urbanienne à Rome. Propos recueillis par Marie-Josée Mwando Boabualo. Autre anniversaire, l'église du Rwanda a célébré les 40 ans des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho. Les détails.
La bienheureuse Vierge Marie est venue nous rendre visite à Kibeho le 28 novembre 1981, il y a maintenant 40 ans. Elle a apparu aux filles qui étudiaient ici dans cette école. Elle les a envoyées dire aux gens de se repentir et de prier sincèrement parce que le monde est en danger car les gens, de plus en plus, tournent le dos à Dieu et troublent la paix des autres. Tel est l'extrait du message de son éminence Antoine Cardinal Kambanda, ce lundi 29 courant, lors de la messe de célébration d'anniversaire de 40 ans des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho. Repentons-nous et retournons à Dieu. Prions sincèrement. A-t-il ajouté, les apparitions de Kibeho ont été reconnues par l'Église le 29 juillet 2001. Ainsi sont-elles les premières admises officiellement sur le continent africain. Le Père François Harerimana, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Kibeho, nous donne quelques éléments du message de la Vierge Marie à Kibeho.
La Vierge Marie à Kibeho s'adresse au monde entier. Ce message a un nom, c'est le Verbe de vie. Elle nous appelle à la conversion du cœur, à revenir à Dieu sans tarder en accueillant Jésus. Dans une prière sans hypocrisie, elle nous recommande le chapelet. Elle nous a donné le chapelet de cette douleur pour méditer la passion de Jésus et les douleurs de sa mère.
La fête de la mère du Verbe était prévue le 28 novembre, mais elle a été célébrée le 29 novembre courant pour faire place à la célébration du premier dimanche de l'Avent. Au Rwanda, Ndagijimana Diogène pour Radio Vatican.
Comme nous le disions dans les titres, le 1er décembre marque la journée internationale de lutte contre les VIH-Sida. Le père jésuite Ismaël Matamboura, directeur de Adjan, le réseau jésuite africain de lutte contre les VIH-Sida, nous parle de la célébration de cette journée par sa structure. On l'écoute.
C'est depuis 1988 que cette journée a été consacrée à cette fin. Et elle vise justement à attirer davantage le monde sur cette pandémie du VIH qui justement continue de tuer, continue de faire les orphelins, continue d'aggraver la souffrance dans le monde et surtout en Afrique subsaharienne. Il compte plus de 70% des personnes vivant avec le VIH au monde. Comment les réseaux célèbrent cette journée cette année? Il y a deux niveaux de célébration. Au premier niveau, nous avons les centres, les membres du réseau, qui sont dans différents pays en Afrique subsaharienne. Chaque centre s'organise selon son contexte. Beaucoup de centres et projets et autres initiatives s'associent avec les programmes nationaux qui gèrent justement les questions du VIH et des autres pandémies dans le pays où ils se trouvent, pour justement célébrer ensemble. Et cette célébration s'est faite en collaboration avec d'autres partenaires qui sont impliqués dans les domaines de la santé. D'autres organisent à leur niveau des activités avec leurs bénéficiaires séropositifs, adultes comme enfants et jeunes, et aussi avec d'autres personnes, pour aussi continuer à conscientiser davantage les communautés sur l'existence et les ravages et aussi l'impact de la pandémie du VIH sur les individus, sur les communautés, sur la société. Alors pour nous, au niveau des réseaux jésuites africains contre les VIH, la conférence jésuite d'Afrique et Madagascar, la journée, nous allons la marquer aussi par une petite célébration avec tous les staffs, tous les membres du personnel de la conférence. Nous aurons un moment où nous allons voir quel est l'état de la situation du VIH au monde aujourd'hui et en Afrique en particulier. Et après cela, nous aurons un échange sur ça.
C'était les pères jésuites Ismaël Matamboura, directeur de Adjan, le réseau jésuite africain de lutte contre les VIH-Sida, basé à Nairobi, au Kenya.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les autorités éthiopiennes ont affirmé mercredi que les forces pro-gouvernementales avaient repris la localité de Shewa Robit, située à environ 220 km de la capitale Addis Abeba, une semaine après que les rebelles tigréens en eurent revendiqué le contrôle. Au Nigeria, les autorités ont annoncé mercredi la mort d'au moins 29 personnes, dont une majorité d'enfants âgés de 8 à 15 ans, dans les naufrages d'un bateau surchargé mardi soir dans le nord du Nigeria, et 13 autres sont toujours portés disparus. Les recherches pour retrouver les 13 corps restants étaient encore en cours selon le porte-parole des pompiers de l'État de Kano, Saminu Abdoulaye. Un tribunal de Dakar a renvoyé mercredi au 2 mars 2022 les procès en appel de Barthélémy Diass, un opposant au pouvoir et candidat à la mairie de Dakar. Monsieur Diass, maire des Mémoses Sacré-Cœur, une commune de Dakar au Sénégal, a répondu en appel avec d'autres prévenus de la mort en 2011 d'un lutteur, Ndiaga Diouf, décrit par l'opposition comme un nervi du régime. Il avait été abattu par balle dans un contexte de violence politique.
Radio Vatican, France-Afrique, Stanislas Kambashi.
La Cour d'appel de Tripoli a rejeté mercredi deux recours contestant la candidature à l'élection présidentielle du chef du gouvernement intérimaire libyen Abdelhamid Dbeiba, ont rapporté des médias locaux. Ce recours avait été déposé dimanche par d'autres candidats au scrutin du 24 décembre, parmi lesquels l'ex-ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga, au motif que M. Dbeiba n'avait pas démissionné de son poste 3 mois avant l'élection présidentielle, comme l'impose la loi électorale. La junte au pouvoir en Guinée a annoncé mardi avoir autorisé les ex-chefs d'État Sékouba Konaté et Moussa Dadis Camara, qui vivent tous deux à l'étranger, à séjourner en Guinée pour raisons humanitaires. Le général Konaté avait été interdit de rentrer en Guinée à la suite du coup d'État annoncé par le régime de M. Condé en juillet 2011. Plusieurs de ses proches avaient ensuite été arrêtés. Marie-Josée Moando Boabalo nous présente le magazine du jour.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Le magazine sur les organisations internationales et la solidarité concerne la transformation des systèmes agroalimentaires d'Afrique et la coordination des politiques entre les secteurs. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et des participants de haut niveau se sont réunis récemment à l'occasion de la 17e réunion de la plateforme de partenariat du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Si l'on veut rendre les systèmes agroalimentaires africains plus durables, leur transformation doit s'opérer dans un cadre stratégique intersectoriel global, cohérent et coordonné, a déclaré la semaine dernière Monsieur Kou Dan-Yu, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, lors d'une manifestation de haut niveau de l'Union africaine. La plateforme de partenariat du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique est le principal forum de l'Union africaine consacré au dialogue sur les politiques agricoles, au partage des enseignements tirés de l'expérience et à la reddition de comptes. Cette année, la réunion de la plateforme avait pour thème « Éradiquer la faim en Afrique d'ici à 2025 grâce à des systèmes alimentaires résilients ». Elle a rassemblé des représentants de la Commission de l'Union africaine, des ministres de 55 États membres de l'Union africaine et des partenaires. Lors d'un débat tenu vendredi avec les partenaires de haut niveau, le directeur général de la FAO a fait remarquer que l'Afrique vivait une période stimulante. Les participants se sont penchés sur les moyens de renforcer les institutions et d'augmenter les investissements en vue d'accélérer la transformation agricole et de rationaliser l'action menée en faveur de la résilience des systèmes alimentaires pour éradiquer la faim sur le continent. Monsieur Kou Dan-Yu a mis en avant 3 axes clés à privilégier pour accélérer la transformation agricole en Afrique, à savoir accroître la productivité agricole, renforcer la résilience en s'attaquant aux problèmes liés à l'eau et au climat dans l'agriculture et augmenter l'utilisation des données ainsi que le recours au numérique. La FAO est déterminée à mettre à profit son savoir-faire et son expérience pour travailler avec les parties prenantes et les partenaires essentiels en vue de transformer les systèmes agroalimentaires africains et d'offrir un avenir meilleur et plus prometteur à tous, a dit son directeur général. Des représentants de la Banque africaine de développement, de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID et de l'Institut international d'agriculture tropicale ont également pris part au débat. La FAO a prêté un appui à l'Union africaine dans le cadre d'un certain nombre de projets afin de stimuler la transformation des systèmes agroalimentaires. En 2021, les deux organisations ont amorcé la mise en œuvre du cadre pour stimuler le commerce intra-africain des produits et services agricoles qui trace la voie à suivre pour développer le commerce agricole entre les pays africains et permettre au secteur agricole d'exploiter son potentiel et de contribuer à une croissance durable et inclusive en Afrique. La FAO a également travaillé avec l'Union africaine dans le cadre de l'initiative africaine relative aux données en accès libre sur l'environnement, l'agriculture et les terres qui a fait de l'Afrique le premier continent à terminer la collecte de données numériques sur l'utilisation des terres et son évolution et dans le cadre de l'élaboration de politiques et de stratégies destinées à des plans nationaux visant à réduire les pertes après récolte.
Suivons à présent la rubrique dans cette présentation de Christian Kombé.
Ouvrons cette rubrique sur la culture au Sénégal, où bien de jeunes artistes trouvent dans le slam, une poésie orale influencée par le hip-hop, un bel espace de liberté. Fin novembre, dans la Maison de la Culture de la Médina, un quartier populaire de Dakar, des dizaines de slameurs, dont beaucoup de jeunes apportant un grand son à leur mise, se sont réunis pour une des premières soirées à micro ouvert après plus d'un an d'interruption causée par la pandémie de Covid-19. Colonialisme, place de l'Afrique dans le monde, féminisme et amour sont des thèmes récurrents évoqués par ces poètes qui prononcent souvent leurs vers à débit soutenu en les lisant sur leur téléphone. Comme l'enfant prodigue, je suis parti à la découverte du monde et de ses séductions, mais je n'ai eu que du chagrin, scande Dilaminou Teila devant une cinquantaine de passionnés de slam. Le slam pour nous est une forme d'expression pour nous libérer. C'est un art qui me permet de me libérer, de dire tout haut ce que je pense et d'atténuer toute la pression que je reçois souvent dans la vie, confesse Mbeley Moussandiaye, un des coordinateurs de la soirée à la Médina. Le slam est populaire dans toute l'Afrique francophone, mais il a fait des racines au Sénégal. Le Sénégalais Abdourahmane Dabo, décédé l'an dernier, avait remporté le premier tournoi panafricain en 2018. Selon le président de la Ligue sénégalaise de slam, Omar Keïta, il y a des associations dans les 14 régions du pays, ainsi que de nombreux groupes scolaires et universitaires. Notons que le Sénégal est un pays de grande tradition littéraire. L'écrivain sénégalais Mohamed Mougarsar a remporté en octobre dernier le prix Goncourt, la plus prestigieuse distinction littéraire en France. Poursuivons notre rubrique sur la culture en donnant la parole à Madame Rebecca Kabouo, activiste et militante du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, en République démocratique du Congo. Dans cet entretien que nous vous proposons, elle nous parle du spectacle Voix intérieure manifeste, dans lequel elle a collaboré avec le chorégraphe Yves Mwamba et le musicien Pichas Kambilo. Voix intérieure est un manifeste contre l'absurdité du monde et un plaidoyer pour la dignité et les droits fondamentaux des milliers de Congolais privés de parole. On l'écoute.
Voix intérieure, c'est une pièce chorégraphique qui parle des voix intérieures de celles que les Congolais. Ils ont envie de parler, mais ils n'ont pas l'espace pour s'exprimer. C'est courage d'aller dans le riz et manifester. Et voix intérieure, c'est cette volonté que le peuple congolais a, mais il n'arrive pas à extérioriser. On donne une place aux voix intérieures sur scène, exprimées selon le corps, selon la musique et la parole.
Ce spectacle, Voix intérieure, est un trio. Il y a la parole, il y a la musique et la chorégraphie. D'où est venue cette idée d'harmoniser ces trois expressions artistiques?
C'est l'idée de Yves Mwamba, qui est l'initiateur du projet Voix intérieure. Il a voulu mêler ces trois personnages sur scène et exprimer une forme de plaidoyer sur scène à travers le corps, voix et la musique. Il exprime sa passion. une seule indignation avec la danse. Moi, je fais ça avec la parole. Et puis, James Cambino, qui est un musicien, il fait la musique. Et du coup, on est lié, on est sur scène, c'est trois corps, mais on a un message commun qu'on fait passer pour ce Congo qui a besoin d'être parlé sous les différentes formes.
Rebecca Kabuo, la RDC est un pays de culture. Pensez-vous que l'art, la musique, la danse au Congo sont des moyens efficaces pour porter votre engagement citoyen?
Je pense qu'on a ignoré peut-être la force de la danse, on a ignoré la force de la parole, on a ignoré la force de la musique. Du coup, tout tourne autour de la politique. Les gens pensent pour faire bien passer le message, il faut aller chez les politiciens, au Parlement, dans les territoires, chez les administrateurs. Mais cette forme de manifestation de la culture, ça nous ramène là où nos ancêtres parlaient des causes de leur milieu par la musique, par la danse, par la parole, les arbres à palabres. C'était ça, les discussions dans ce temps. Pour ramener ça dans notre culture, c'est pas facile, mais c'est une forme de manifestation. Quelqu'un qui a peur peut-être de manifester librement, il peut faire par la danse, il peut faire par la musique. Et du coup, pour moi, la RDC, en tant qu'un pays culturellement reconnu, c'est une façon de manifester et porter sa voix sur le plan public.
C'était l'activiste et militante congolaise Rebecca Kabuo qui nous parlait de Voix intérieures, un spectacle qui se veut un manifeste contre l'absurdité du monde et un plaidoyer pour la dignité et les droits fondamentaux des milliers de Congolais privés de parole.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes de Radio Vatican.